Audiolib présente Ragdoll de Daniel Cole, lu par Damien Ferrette. Vas-y, explique. Si tu es le diable, qu'est-ce que ça fait de moi ? Prologue. Lundi 24 mai 2010. Samantha Boyd se faufila sous le ruban de signalisation de la police, et tandis qu'elle se redressait, jeta un œil vers la tristement célèbre haute cour criminelle de Londres. Perchée à la pointe du dôme d'Old Bailey, la statue de la justice ne lui apparaissait plus désormais comme un symbole de puissance et d'intégrité, mais pour ce qu'elle était vraiment. Une femme désespérée, ayant perdu toutes ses illusions, prête à sauter dans le vide et à s'écraser sur le sol. Le bandeau dont sont d'ordinaire affublées ces statues, censées leur couvrir les yeux, avait ici été omis. Ça tombait bien. Depuis les récentes affaires de racisme et de corruption au sein de la police, le concept même de justice aveugle en avait pris un sacré coup. Face à la nuée de journalistes qui s'étaient abattus sur le quartier, les rues et les stations de métro alentour avaient de nouveau été fermées, jusqu'à transformer ce coin animé du cœur de Londres en un étrange bidonville grouillant de cadres de la classe moyenne. Les trottoirs étaient jonchés de détritus, d'emballages de sandwichs Marks & Spencer, ou prêts à manger. Un bourdonnement de rasoirs électriques assurait le bruit de fond, des sacs de couchage de marque étaient roulés et repliés avec soin, pendant qu'un type en chemise et cravate, pourtant équipé d'un fer à repasser de voyage, peinait à dissimuler qu'il avait dormi là, tout habillé. Samantha fendit la foule, mal à l'aise. Elle était en retard, et les 6 minutes de marche rapide depuis Chancery Lane l'avaient fait transpirer. Elle avait trop serré sa coiffure en voulant remonter sa chevelure blond platine avec des épingles, dans une tentative dérisoire de changer d'apparence. La presse avait identifié dès le début celles et ceux qui étaient en rapport avec le procès, et il va sans dire qu'au 46e jour d'audience, Samantha avait eu droit aux honneurs des plus grands quotidiens internationaux. Elle avait même été obligée de prévenir la police lorsqu'un journaliste trop zélé l'avait suivie jusqu'en bas de chez elle, à Kensington, refusant obstinément de décamper. Résolue à ne plus jamais attirer l'attention, Samantha accéléra le pas, tête baissée. Deux files sinueuses se déployaient au carrefour de Newgate Street. Elle s'expliquait d'une part par le nombre insuffisant de toilettes mobiles et pour l'autre par la présence d'un food truck Starbucks. Coincée par ces deux files qui finissaient inévitablement par se croiser, Samantha fonça vers les policiers en faction devant l'entrée latérale du tribunal. Une petite femme la rabroua en japonais parce qu'elle venait de traverser par mégarde la zone où des dizaines de journalistes étaient en train de tourner leur reportage. « Dernier jour », songea Samantha, faisant mine d'ignorer les insultes qui pleuvaient dans son dos. La virulence des reporters lui était incompréhensible. Plus que 8 heures... et sa vie reviendrait à la normale. À la porte, un agent de police, qu'elle n'avait encore jamais vu, examina longuement sa carte d'identité avant de l'inviter à se plier à la routine qu'elle connaissait par cœur. Déposer ses effets personnels à la consigne automatique, réexpliquer qu'elle n'arrivait pas à retirer sa bague de fiançailles avant de se soumettre au détecteur de métaux, se sentir embarrassée par les auréoles de sueur lors de la fouille au corps et, pour finir, longer les couloirs anonymes avant de rejoindre les 11 autres jurés rassemblés autour d'un café soluble tiédasse. En raison de l'impressionnante couverture médiatique et de l'incident survenu au domicile de Samantha, les autorités avaient pris une décision inédite. Mettre les jurés à l'isolement, ce qui avait déclenché un tollé général. Des factures d'hôtel à plusieurs zéros allaient donc être réglées avec l'argent du contribuable. Après quasiment 2 mois de procès, les discussions matinales entre jurés consistaient à se plaindre de douleurs au dos causées par la literie de l'hôtel ou de la monotonie du menu du soir. Ces échanges s'accompagnaient des inévitables lamentations sur ce qui leur manquait réellement le plus, les conjoints et les enfants,